Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un couple de marginaux qui sillonne la France pendant plus de 20 ans, persuadés d'être chargés d'une mission divine. Des pèlerins déchus qui dérapent gravement le 28 juillet 2008, lorsque l'un d'eux assassine un enfant de 10 ans de 44 coups de couteau à l'agneau dans l'Ain. Dans cette histoire, il y a trois personnages principaux. Celui qui se fait appeler le roi d'Australie, Stéphane Moitoiré, celle qui se surnomme la princesse du divin, Noëlla Ego, et celui qui n'a rien demandé, leur victime, alors seulement âgée de 10 ans, le petit Valentin. À travers ce récit qui débutera aux Assises, nous remonterons 20 ans en arrière pour retracer le chemin de ces deux-là. La rencontre du couple, sa quête, les voies occultes qui poussent Stéphane à tuer, l'arrestation et le procès, bien sûr. Un procès qui pose la question de la responsabilité mentale. Comment la justice fait-elle état de la maladie mentale? Quel jugement octroyé à la folie qui pousse au meurtre? Durant l'émission, vous entendrez des archives, des témoignages et des lectures de certains propos tenus par Noëlla Ego, ici jouée par une comédienne. Notre invité aujourd'hui, le romancier et chroniqueur Stéphane Durand-Soufflant, l'auteur du livre intitulé « Mission divine », publié cette année aux éditions L'Iconoclaste. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Leslie Benahem, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Presque deux ans donc après leur condamnation dans l'Ain, le Picard Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego seront rejugés en appel aux Assises du Rhône dès aujourd'hui jusqu'au 22 novembre prochain. Ils sont accusés d'avoir tué Valentin Crémaux, 10 ans, le 28 juillet 2008.
Nous sommes le 21 novembre 2013. Devant la cour d'Assises du Rhône, Stéphane Moitoiré, 42 ans, bouffi, shooté au neuroleptique, bredouille. Non, je n'ai pas tué. Tout en cherchant du regard l'approbation de sa femme de 52 ans qui se tient là, à ses côtés, dans le box, jugée, elle, pour complicité. Mais Noëlla Ego ne daigne pas le regarder. Elle pose le visage impassible, tel une statue de cire. En face d'eux, serrés sur le banc des parties civiles, le père et la mère qui ont perdu leur enfant. Ils encaissent, épaulés par 24 autres membres de leur famille. Ils assistent, impuissants, défilés de psychiatres qui s'agitent devant le juge depuis l'ouverture du procès en appel. Tandis que certains considèrent que l'accusé est pénalement irresponsable, d'autres estiment qu'il a subi une altération du discernement au moment des faits. Mais pour les parents, c'est une mascarade. La folie, eux, ils s'en fichent. Que Stéphane et Noëlla soient fous, non. Ça ne leur rendra pas leur fils, Valentin, tombé il y a 3 ans sous la violence de 44 coups de couteau. Alors, ils souhaitent que celui qu'ils considèrent comme leur bourreau encourt une peine d'emprisonnement maximale. Non, je n'ai pas tué Stéphane Moitoiré, ni les faits, parce qu'il n'a aucun souvenir de les avoir commis. Pourtant, il est condamné. Maître Hubert Delarue, son avocat, réagit au verdict.
On a criminalisé ce soir la folie à Lyon. Je pense que c'est un mauvais signe, c'est un mauvais présage pour l'institution judiciaire. Car il y avait manifestement tous les éléments réunis, rassemblés, que nous avons, avec Franck Berton, développé ce matin, pour que ce soir un arrêt d'irresponsabilité pénale soit prononcé au profit de Moitoiré.
Stéphane Moitoiré est condamné à 30 ans de prison. Mais revenons plus de 20 ans en arrière pour essayer de comprendre le parcours de cet homme dont le sort trouble tant la justice. Nous sommes en 1987. Dans un café de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise, Stéphane, 18 ans, grand, brun, glisse une pièce de monnaie dans le jukebox. Il choisit un morceau de hard rock. À l'autre bout du bistrot, Noëlla, 28 ans, blonde, à l'allure déterminée, est interpellée par cette musique. Elle lève son regard vers le jeune homme et le convie à sa table. Intrigué, Stéphane se rapproche et s'installe en face de celle qui se dit voyante et cartomancienne. Ils échangent autour d'un tirage de tarot présageant déjà un avenir commun. Et c'est la première fois que ça lui arrive. Stéphane tombe instantanément amoureux. Oui, il aime le côté mystique de Noël, là, dont il boit les paroles. Et ça ne la fait pas tiquer lorsqu'elle lui demande de l'appeler Sa Majesté. Elle dit avoir été nommée ainsi par une divinité, Stéphane Allaire, et accepte instantanément de devenir son secrétaire. Leur duo est scellé. Ils quittent le bistrot bras-dessus en parlant de mysticisme. Noëlla lui propose de l'amener chez ses parents dans le Nord. Stéphane lui présente sa mère. Une fois ses convenances respectées, ils échafaudent rapidement un projet de voyage et coupent les ponts avec leur entourage. Chantal Poiret, la mère de Stéphane, se souvient.
Un jour, il est rentré, il m'a dit, j'ai rencontré une fille dans un café qui m'a tiré les cartes, qui m'a dit qu'elle m'emmènerait avec elle.
Le couple part d'abord un an en pèlerinage à Lourdes, à pied. Noëlla y cherche un miracle. Tandis que pour Stéphane, c'est elle le miracle. D'habitude solitaire et butique, le jeune homme se confie. L'école, c'était pas pour lui. Il a arrêté en cinquième. À 16 ans, il a essayé un stage de pâtisserie, sans conviction. Puis, quand son père est décédé d'une tumeur au cerveau, peu de temps après, il a vrillé.
Stéphane passait beaucoup de temps avec lui. Et c'est là que j'ai vu que Stéphane n'allait plus très bien. Il y avait des petits signes indicateurs de son mal-être.
Noëlla se confie à son tour. Contrairement à Stéphane, elle était plutôt brillante à l'école. En seconde, elle quitte tout de même le lycée pour passer un BEP d'agent administratif. Après avoir travaillé dans deux banques différentes, elle épouse un comptable alors qu'elle n'a que 20 ans. Mais elle s'ennuie et change radicalement de vie 5 ans plus tard. Elle divorce, part en Italie pour un job de danseuse, en réalité de stripteaseuse. Puis retourne à Cannes chez sa sœur pour tirer les cartes et monter un cabinet de voyance. Bien loin de l'univers de la banque, entre magie blanche et noire, Noëlla se dit faite pour le mystique, si elle le dit. À pied, en stop ou à vélo, le parcours du couple continue, bien au-delà de Lourdes. Stéphane dépense rapidement les 50 000 euros qu'il a hérités de son père. Les deux tourtereaux trouvent alors le moyen d'être nourris et hébergés, recueillis dans des lieux religieux ou des auberges de village. Marchant tantôt en France, tantôt vers l'Italie, ils s'arrêtent pour se purifier, disent-ils, et mettent en place des rituels invoquant des divinités au milieu de bougies. Oui, les bougies, ça crée l'ambiance. Trois ans après leur rencontre, Noëlla tombe enceinte. Elle veut accoucher naturellement. L'idée d'aller à l'hôpital lui est insupportable. Mais sa santé pourrait être mise en danger. Lorsque la sage-femme demande au couple d'indiquer leur situation professionnelle, tous les deux se déclarent exorcistes et annoncent finalement vouloir accoucher sous X. Une fois l'enfant né, il est immédiatement confié aux services sociaux. Noëlla dira après coup qu'elle n'en voulait pas.
J'avais acheté une layette. Mais j'abandonne le bébé pour des raisons professionnelles et idéologiques, incompatibles avec l'éducation de l'enfant. Après tout, c'est l'enfant du diable. Notre vie s'est taillée la route.
Après cet épisode, le couple reprend son périple de village en village, de paroisse en paroisse. Mais l'épisode de l'enfant a cassé quelque chose dans leur couple. Noëlla, ça casse plus vite. Stéphane est de plus en plus incohérent. En échange d'un hébergement, ils promettent de l'argent qui leur sera soi-disant envoyé d'Australie par leurs parents. Ils racontent à tout le monde qu'ils vont créer des usines et des banques à taux zéro. Ils notent des formules incompréhensibles dans des carnets et continuent leur purification avec des bougies. Noëlla se prend pour une princesse divine. Stéphane, toujours très épris d'elle, l'appelle son éminence. Les pèlerins venus d'Australie, comme ils se présentent, croient de plus en plus à leur mission. À Morlaix, Frédéric Babillot, adjoint au maire, se souvient de sa rencontre avec Stéphane.
Donc il s'est présenté comme étant, on va dire, pèlerin, représentant une association australienne, dont le siège était en Australie. Le but de cette association, c'était donc de créer une banque internationale qui permettrait de mettre à disposition des prêts gratuits. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait rencontré Nicolas Sarkozy, qu'il le connaissait même très bien, qui connaissait pas mal de membres du gouvernement.
Les conducteurs, les villageois, les curés, les autostoppeurs qui croisent diront au du duo qu'ils étaient bizarres, incohérents, mais plutôt l'air inoffensif. Gentiment fêlés, quoi. Une dizaine de brigades territoriales font quand même remonter des contrôles d'identité du couple dans diverses régions. Alors, Stéphane et Noëlla commencent à se sentir persécutés, paranoïaques. Ils dressent une liste noire des gendarmeries où ils prévoient de faire des descentes commando. Ils fuient les hélicoptères qui, soi-disant, les poursuivent. Ils refusent le téléphone que leurs proches essaient de leur offrir pour maintenir un lien. Car un téléphone, c'est un mouchard, avec puce et antenne, en somme, un instrument du diable. Chantal Poiret, la mère de Stéphane, poursuit.
Ils restaient dans la chambre toute la journée, on les entendait pas. Ils mangeaient à part, ils mangeaient pas avec nous. Quand on leur proposait quelque chose, ils disaient non, parce qu'il fallait qu'ils purifient la nourriture. La journée, ils disaient qu'il fallait qu'ils fassent leur prière. Il fallait pas les toucher, pas les embrasser, pas les photographier. Ça, il n'en était pas question de tout ça. Et Stéphane, quand on lui parlait, il vous répondait en grimaçant les paroles. C'était même pas chuchoter, c'était grimacer les paroles parce qu'il disait qu'on était écoutés.
Cette errance dure près de 20 ans. Mais les jeunes corps s'affaissent. La marche et le manque de sommeil usent le couple qui se raccroche au divin pour ne pas sombrer. Un petit chat noir rejoint le duo. Noëlla l'adopte et le promène au bout d'une ficelle. Et le couple ne va pas mieux. Noëlla est de plus en plus agacée par Stéphane et le rejette. Ils se disputent, souvent. Stéphane vit mal. Il est nerveux. Depuis un mois, il dit vouloir revenir en arrière pour que tout soit comme avant. Alors, et selon sa logique, il faut créer ce qu'il nomme un incident. Le 28 juillet 2008, particulièrement énervé, il quitte la salle paroissiale de Saint-Sorlin en Bugey, un couteau à la main. La dispute avec Sa Majesté a été violente. Il veut absolument revenir en arrière. Alors il marche hâtivement jusqu'au village voisin, Lagneux. C'est là, dans une sombre ruelle, qu'il croise un petit cycliste de 11 ans et qu'il commet l'irréparable. Le jeune garçon, prénommé Valentin, se défend du mieux qu'il peut, mais les 44 coups de couteau le font succomber aux alentours de minuit. À peine une heure plus tard, Stéphane retourne à la paroisse. Noëlla découvre son compagnon entièrement recouvert de sang et très agité. Il dit avoir été ensorcelé et dirigé par une main invisible. Dans la nuit, le couple, animé par un élan de lucidité, se débarrasse des pièces à conviction, sandales, montres, bermudas, t-shirts maculés de sang. Tout finit dans un épais bosquet. S'en suivra une courte cavale de 6 jours. Lorsque le corps de Valentin est découvert dans la nuit, on croit d'abord à des morsures de chien. Mais dès le lendemain, après autopsie, la piste criminelle est envisagée. Il ne s'agit pas de morsures, mais bien de coups de couteau. Des traces de sang sont relevées sur un périmètre de 1,5 km aux alentours. Une enquête est ouverte. Jeudi 31 juillet, l'analyse du jogging de Valentin révèle une trace ADN masculine. Vendredi 1er août, on s'aperçoit que l'ADN analysé ne correspond à aucune empreinte enregistrée au fichier national. Une centaine de gendarmes sont alors déployés pour retrouver le criminel dans la région. Très vite, d'autres indices apparaissent. La caméra de surveillance d'une banque proche de la scène du crime révèle, elle, l'image d'un homme qui s'enfuit en pleine nuit. Et puis ce sont des témoins qui signalent avoir aperçu un couple de marginaux errant avec un chat noir au bout d'une ficelle. 19h ce jour-là, le journal de France Inter.
C'est un chat noir qui les a trahis. Le chat qu'ils promenaient en laisse au bout d'une ficelle hier après-midi dans les rues du Chélard, grosse bourgade du centre de l'Ardèche. Un détail sans doute, mais suffisant pour que la présence de ce couple de marginaux soit signalée aux gendarmes. Cette nuit, quand les mandats de recherche, avec le signalement précis de Stéphane Moitoiré et de sa compagne Noëlla Ego, quand le message tombe dans toutes les brigades de France, les gendarmes du Chélard font le rapprochement et renforcent leur patrouille. Coup de chance, à 14h cet après-midi, un automobiliste leur signale la présence du couple près du village de Dornas, sur la route de la Haute-Loire. Une heure plus tard, les meurtriers présumés du petit Valentin sont arrêtés alors qu'ils faisaient de l'autostop.
Peu de temps après, l'empreinte génétique masculine extraite du sang retrouvée sur les lieux du crime est identique à celle qui figure sur la porte de la salle paroissiale où Stéphane et Noël étaient hébergés. Pour le procureur, il n'y a donc aucun doute, c'est bien Stéphane Moitoiré qui a tué l'enfant. Le 3 août, en Ardèche, Stéphane et Noëlla sont arrêtés sans heurts par la police. Dès son premier interrogatoire, Stéphane nie les faits. Non, il n'a pas tué.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Le 5 août 2008, un millier d'anonymes marchent aux obsèques du petit Valentin. Des gerbes de fleurs, des ballons blancs et des messages d'amitié ornent le cortège. Pour la plupart, le meurtrier barbare mérite la prison à perpétuité. La colère pousse même certains à réclamer le rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Mais un criminel atteint de troubles psychiques importants porte-t-il l'entière responsabilité de ses actes? Et puis, cet homme que tout accable, n'était-il pas sous l'emprise de sa compagne? En tout cas, à Lagneux, ce village de l'Ain n'avait jamais vu un si grand défilé de journalistes, de photographes, d'experts et de femmes de pouvoir. La ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux ont fait le déplacement pour saluer la famille de la victime. Rachida Dati se montre particulièrement concernée.
C'est un crime atroce, barbare.
le rappelle. Et nous avons souhaité que Michel Alliot-Marie venir aussi apporter notre soutien à la famille que nous allons rencontrer maintenant, notre soutien à titre personnel, dans le cadre de nos fonctions respectives, mais également celui du président de la République. Parce que c'est un crime barbare qui traumatise la famille, mais qui traumatise l'ensemble des Français.
Place au procès, cour d'assises de l'Ain, décembre 2011. Stéphane Moitoiré, mis en examen pour assassinat avec acte de barbarie, et sa compagne, Novella Ego, pour non-empêchement de commission d'un crime et dissimulation de preuves. Mais le meurtrier s'entête à nier les faits qui lui sont reprochés. Il bredouille, formule très peu de mots, quasi toujours les mêmes. Des traces de son ADN retrouvées sur la petite victime et à travers le village de Lagneux. « C'est pas à moi », répond-il. Sa silhouette aperçue sur la vidéosurveillance, pas moi. Deux témoins qui le croisent dans sa fuite, pas moi. Son ex-compagne qui l'accuse, pas moi. Stéphane jure de ne pas avoir quitté la salle paroissiale où ils étaient abrités la nuit du crime. Toujours shooté au neuroleptique, il évoque la présence d'un clone, même de plusieurs clones qui ont réagi à sa place. Il parle de magie et d'une vie dans l'univers différenciée de sa vie sur Terre. Noëlla, elle, raconte les faits avec plus de précision. Pour sa majesté, son secrétaire a commis ce crime sous possession, sous schizophrénie, puis il a repris conscience. Elle témoigne dans l'Express.
Depuis quelque temps, il était devenu méchant. Il me parlait mal et m'avait même frappé. Je voulais le quitter. La nuit du 28 juillet, il a voulu partir tout de suite, mais je n'ai pas voulu. Je lui ai dit que je ne l'aiderais pas et que si on l'arrêtait, je dirai la vérité.
Moitoiré est-il pénalement responsable? Pour ses avocats, l'enjeu est de convaincre la cour d'un discernement aboli pendant les faits. Dans ce cas, il pourra être interné et non emprisonné. Du côté de Noëlla, la peine encourue est moins grande. Mais ses avocats se livrent au même combat. Prouver un certain dysfonctionnement mental. Prouver qu'elle n'est pas la complice d'un meurtre. Le procureur attend l'avis des psychiatres. Mais beaucoup d'éléments accablent déjà Stéphane. Si l'accusé a certainement souffert d'une abolition du discernement au moment du meurtre, c'est tout de même en pleine conscience qu'il s'est lavé et qu'il a mis les vêtements tachés de sang dans un sac plastique pour s'en débarrasser. C'est aussi en pleine conscience qu'il a fui du village avec Noëlla en faisant de l'autostop dès le lendemain vers l'Ardèche. Alors, place au psychiatre. Ils sont d'abord trois, commis par le juge d'instruction. Pour l'un d'eux, Stéphane est clairement en plein délire au moment des faits. Il estime qu'il a agi sous l'emprise d'une force et d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. Mais pour les deux autres experts, le discours est plus nuancé. Ils parlent non pas d'une abolition, mais plutôt d'une altération du discernement. Ce qui change tout. En octobre 2008, le parquet demande une contre-expertise. L'avocat de la famille de Valentin également. Alors, pendant 3 ans, le gratin des experts psychiatres se déchire autour de l'énigme. 10 médecins tentent de décoder l'étrange personnalité de Stéphane, qu'ils qualifient de psychotique. Mais aucun ne parvient à se mettre d'accord, comme le démontrent les témoignages de l'une de ces experts au journal Soir 3.
Moi, on m'a posé la question à la barre et je vous ai dit que je ne pensais pas qu'il y avait préméditation puisqu'il s'agissait d'une colère. Et une colère, on ne la prémédite pas et on ne sait pas comment elle va aboutir et où elle va atterrir. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait une préméditation. Comme je ne pense pas que Mme Ego ait été au courant, en amont, de ce qui allait se passer.
Finalement, 6 avis contre 4 l'emportent. En 2011, la cour d'assises de l'Ain condamne donc Stéphane à la perpétuité et Noëlla à 18 ans de réclusion. L'avocat de la Défense, maître Delarue, s'indigne sur France Inter.
Le sentiment que nous avons ce soir, c'est qu'on a jugé le crime, mais que l'on n'a pas jugé le criminel. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne répare pas une injustice par une autre injustice. On a condamné à la peine perpétuelle un handicapé mental dont 4 psychiatres de renom avaient considéré que le discernement de cet homme était totalement aboli au moment des faits qui lui sont reprochés.
L'avocat plaide les 20 années d'errance et de délire mystique. S'il reconnaît la responsabilité, il ne peut pas admettre la culpabilité. Le procès de la folie reprend 2 ans plus tard, en 2013, après que les accusés ont fait appel. Mais les problématiques restent les mêmes. Les psychiatres continuent à s'affronter sur les questions d'abolition ou d'altération du discernement. Si tous reconnaissent en Stéphane Moitoiret un schizophrène paranoïde, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur son sort. Au terme de 2 semaines de débat et de plus de 7h30 de délibération, la cour d'assises du Rhône reconnaît à nouveau Stéphane Moitoiret coupable et responsable du meurtre du petit Valentin. Il est cette fois condamné à 30 ans de réclusion, dont une peine de sûreté des 2 tiers. Mais Noëlla Hego, condamnée en première instance à 18 ans pour complicité d'assassinat, elle, est acquittée, comme le rapporte Corinne Audouin sur notre antenne.
Moitoiret restera donc en prison encore au moins 15 ans. Après, nul ne sait. Pour Noëlla Hego, c'est en revanche la fin de ce qui apparaît comme une véritable injustice. Son avocate, Roxana Nasserzadeh.
Justice a été rendue, mais avec retard. Après 5 ans et demi de détention provisoire pour cette femme-là, cette innocence a enfin triomphé.
Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Stéphane est toujours incarcéré dans un centre spécialisé dans le nord-est de la France. Le verdict, très attendu de ce procès historique, n'aura donc pas répondu favorablement à ceux qui plaident pour l'irresponsabilité pénale. La plupart des psychiatres et des avocats stigmatisent en effet la tendance actuelle de la justice qui consiste à tout pénaliser et à refuser d'admettre la folie. Une tendance qui obéit à la volonté de l'opinion publique, qui ne supporte pas que l'auteur d'un délit, d'un crime, ne soit pas puni. Noëlla et Stéphane se seraient-ils retrouvés dans cette situation s'ils ne s'étaient pas marginalisés pendant si longtemps ? Depuis 2000, Alain Mercuel, chef de service d'appui santé mentale et exclusion sociale de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, a déployé des équipes mobiles pour aller au-devant des personnes les plus désocialisées, histoire et surtout d'éviter de tels drames comme la mort d'un enfant.
Il est plus facile de dire aux gens « allez vous faire voir ailleurs » ou « si vous continuez, je vous mets en prison » que d'essayer de les drainer vers la psychiatrie. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Valentin. Le patient a croisé des gendarmes, des curés, des citoyens, sans être dirigé vers la psychiatrie. Pourtant, tous avaient vu qu'il avait un grain. Or, la psychiatrie ne peut pas toquer à toutes les portes pour demander aux gens s'ils sont malades. Il faut bien que la société joue aussi son rôle de signaleur de souffrance. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire d'un drame intitulé « Mission divine » dont nous allons parler avec notre invité Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes à la fois journaliste, chroniqueur judiciaire, auteur, notamment du livre « Mission divine ». En quoi cette histoire vous a-t-elle particulièrement interpellé, d'abord en tant que journaliste et au point d'aller plus loin en tant qu'auteur ?
Je pense que la principale raison, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté personnellement à la folie, à la maladie mentale, puisque le code pénal fait en sorte que les malades mentaux ne soient pas jugés. C'est c'était une avancée du droit français qui a traversé les siècles. On est toujours été sur cette base-là. Et dans cette affaire-là, moi, Touaré et Ego, on s'est retrouvés à la cour d'assises avec deux accusés qui étaient manifestement des malades mentaux. Et on en a eu la preuve éclatante. Et moi, ça m'a beaucoup
troublé,
bouleversé. Bah ouais, oui, parce que d'abord, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. Et en plus, c'est extrêmement... c'est difficile à encaisser, la folie comme ça. Surtout sur un fond aussi dramatique. Bon, parfois, on peut s'amuser. De personnes un peu dérangées qui tiennent des propos. Bon, voilà, on sourit. Mais là, il y a quand même un enfant qui est mort derrière.
Et oui. Et justement, c'est d'autant plus dur, d'ailleurs, pour les parents, que si la personne qui a tué porte toute la responsabilité, au moins il y a un sentiment de justice. Mais là, c'est terrible. C'est comme quand vous perdez un proche et on ne sait pas qui l'a tué. Là, c'est pareil. C'est quand même un acte de justice. Évidemment que c'est un acte de justice. Mais pour les familles de victimes, ça n'apparaît pas comme une justice suffisante pour faire, comme on dit, son deuil.
Ben oui, parce que... Alors... Seul moi, Touaré comparaissait pour le crime. Noëlla Ego, elle était renvoyée pour complicité. Le deuxième procès a montré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants. Donc, on va parler plus de lui. Mais Stéphane Moitoiré, c'est quelqu'un qui évolue dans un univers parallèle. C'est-à-dire que il a un discours avec les mots que nous employons. Il fait des phrases. Il accorde les adjectifs en genre et en nombre. Mais ce qu'il dit n'a aucun sens. Et c'est ça aussi, c'est souvent des amis me disent, ouais, enfin, la folie, ça peut se simuler, mais non, enfin, pas cette folie-là. On peut faire semblant d'être un fou furieux, on peut se taper la tête sur les murs, hurler, des choses inarticulées, mais dès lors que vous commencez à parler, c'est très difficile de se faire passer pour fou. Et lui, et c'est ce que je raconte dans Mission Divine, c'est le moment absolument saisissant, c'est au deuxième procès, quand à un moment on lui pose une question sur la paternité, c'est une question un peu compliquée de l'avocat de la partie civile d'ailleurs, qui a involontairement déclenché le délire, et là il part dans un délire total, à jet continu.
Genre, il dit quoi ?
Ah ben, il dit, alors par exemple, vous, dans votre exposé, vous rappeliez tout à l'heure, il disait par exemple que c'était pas lui. Donc
oui.
Là, il explique qu'il a des milliards de clones.
C'est ça, voilà,
que c'est
des clones,
un esprit malfaisant qu'il appelle Belbar, qui est un peu sa bête noire imaginaire. Vous savez, on a notre ami imaginaire quand on est petit, lui il a sa bête noire imaginaire.
Il est habité quoi, ils se sont habités.
C'est Belbar qui l'a poussé, c'est un piège, c'est un traquenard, de toute façon il le savait, parce qu'il y a des milliards d'années, il avait eu une conversation, on lui avait dit qu'un jour on lui montrait comme ça un coup fourré qui tomberait dedans, etc. Et il dit, et c'est ça qui est extrêmement troublant, il dit, oui, vous allez dire que je suis fou, mais mettez-vous à ma place et imaginez devant un tribunal de Gaulois, si on avait dit un jour il y aura la télévision. Ben, on aurait dit, vous êtes fou, et pourtant aujourd'hui il y a la télévision. Donc, si vous voulez, il a un raisonnement.
Dans sa folie, il a un raisonnement.
Sa folie est un tout cohérent, si vous voulez. Et honnêtement, en plus, la question de la folie de Moitoiré, le problème dans l'expertise psychiatrique, c'est que elle doit déterminer si au moment des faits, l'accusé est ou non maître de son discernement. Et la question qui se pose et qui s'est posée dans une affaire récente qui n'a rien à voir, mais c'est l'accusé d'un le cas d'un homme qui a tué une femme, Madame Halimi, et qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques et qui, après le crime, n'a plus de manifestations psychotiques. Or, avec Moitoiré, on est dans la situation totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a des antécédents longs comme le bras. On sait qu'il délire depuis longtemps, sa mère le dit dans un extrait que vous avez passé tout à l'heure, mais pas que sa mère, il avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, parce qu'il était sur les chemins, donc il a croisé des gendarmes à plusieurs reprises, et il leur a servi la même chose. Il y a des PV qui existent, où il dit on est suivi par des hélicoptères, etc. etc.
Des drones même.
Des drones, enfin de tout, il est suivi partout.
De toute façon, la façon dont c'est de la vie, parce qu'on va quand même reparler un petit peu de Noëlla Ego, au passage. Alors si lui se nomme le roi d'Australie, elle c'est la princesse du divin. Bon, elle est un petit peu allumée aussi, quand même.
La princesse des esprits, oui. Ouais, une divinité cosmoplanétaire.
Bon, bah.
Ah oui, elle a un autre type de maladie qui est la paraphrénie. C'est ce qu'on appelle la folie des grandeurs.
Ah, d'accord. C'est,
moi, je suis la reine d'Angleterre. et là où le sort a été tragique, c'est qu'il a mis en présence Stéphane Moitoiré, qui est un peu une coquille vide. C'est un garçon dont la folie apparaît à l'adolescence, hein, à la fin de l'adolescence, mais qui n'a aucune idée, hein, qui est un pauvre gars. Et cette Noëlla Ego, qui, elle, a la folie des grandeurs et arrive à convaincre son secrétaire particulier, donc son amant, qu'il est son secrétaire particulier, mais qu'il est aussi roi d'Australie, major général de la Légion française en boîte à vœux, et lui, il y croit. Et elle est contente parce que c'est la première fois de sa vie que quelqu'un la croit. Parce qu'elle a cette paraphrénie, mais elle n'est pas complètement folle, Noëlla. Elle voit bien que quand elle raconte ses histoires, qu'elle a une soucoupe volante, qu'elle a rencontré Bouddha, qu'elle rend la justice, etc. Bon, on ne la croit pas vraiment. Et donc, et d'ailleurs, il y a un moment très, très intéressant au procès. Le président lui dit, est-ce qu'il faut vous appeler Majesté? Et elle dit, de toute façon, vous n'y croyez pas, donc ce n'est pas la peine.
Ah oui, ça veut dire moi, j'y crois vraiment.
Mais vous voyez, elle a un léger recul vis-à-vis de son délire. Alors que Moitoiré, pas du tout. Il est à fond dans le roi d'Australie, il y croit, c'est sa vie. Cette femme a donné un sens à sa vie. Il n'en avait pas, elle lui a donné un sens à sa vie. Et pendant 20 ans, il a été heureux avec elle. Et elle a été heureuse avec lui pendant un certain temps. Hein,
Jusqu'à l'enfant, c'est ça qui casse.
L'enfant a sans doute marqué une cassure très, très brutale. Mais ça a continué quand même 15 ans encore. Mmh. Hein.
Pardon, mais comment on passe d'une peine en première instance pour elle de 18 ans à l'acquittement en appel? Parce que ça fait quand même un sacré delta entre 18 et 0.
Elle a été condamnée pour des délits connexes. Elle a été condamnée parce qu'elle a aidé Moitoiré à se débarrasser de l'arme du crime, des vêtements ensanglantés, donc des délits qui ont été couverts par la détention provisoire. Elle est acquittée parce que son avocate qu'on a entendue, Roxana Nasserzadeh, avait un très bon système de défense, une très bonne défense, strictement sur les faits, et dans le dossier, il n'y a absolument rien qui permet de penser que Noëlla Ego était au courant. Alors, la seule chose qui était embêtante pour elle, c'est que Moitoiré disait, j'ai fait un retour en arrière, ce qui fait partie de leur vocabulaire ésotérique. Le retour en arrière, vous savez, ça fait penser ce qui, les plus âgés d'entre nous qui ont vu le premier film Superman et ses effets spéciaux remarquables, à un moment, Superman, alors j'ai oublié la raison.
Je suis pas très calé, je peux pas trop vous aider avec ça.
À un moment, Superman se met à voler autour de la Terre très très vite et fait tourner la Terre dans le sens inverse et donc revient dans le passé.
D'accord.
Et à ce moment-là, rétablit la situation et permet, dans X-Men, il y a aussi un truc comme ça, où on voit Wolverine dans le passé, voilà. Et en fait, c'est ça leur retour en arrière, c'est des trucs qu'ils ont dû piquer dans des trucs de science-fiction. Et donc l'idée, c'est que quand se produit quelque chose de très très grave, on fait un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on va avant l'événement grave,
on réembobine pour que l'histoire soit différente.
Voilà, réembobine. Et ça, c'est un concept inventé par Noëlla Ego.
D'accord. Mais l'incident, quand il dit, voilà, il faut, donc il y a retour en arrière, et il parle d'un incident, créer un incident. Sauf que l'incident, c'est un meurtre épouvantable.
C'est épouvantable.
D'un gamin de 11 ans. C'est quoi l'incident? C'est quoi ce mot?
Mais c'est leur...
C'est pareil, c'est encore lexicologie ésotérique.
C'est leur vocabulaire, c'est aussi une façon de minimiser les choses, parce que je pense que tout fou qu'il soit, Stéphane Moitoiré, il a bien compris que la situation était très embêtante. Il se retrouve menotté, il comprend que les choses tournent mal, et surtout il voit Sa Majesté menottée aussi. Et ça le choque énormément. Et l'incident, il est parti pour le... Il l'a provoqué, cet incident. Quand il part dans la nuit et qu'il va tomber sur ce malheureux Valentin, qu'il ne connaît pas. Le mystère, c'est est-ce qu'il savait qu'il s'appelait Valentin? Est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'il sait, puisque le seul témoin de la scène, c'est lui. Mmh. L'enfant n'est plus là. Du crime, il n'y a pas de témoin. Et donc, il a créé cet incident, ce retour en arrière, pensant qu'il allait pouvoir reconquérir le cœur de Sa Majesté, puisque leur couple était vraiment brinque-ballant à ce moment-là. Elle en avait assez. Elle l'a dit, d'ailleurs, il se montrait violent avec elle. Il y avait une exaspération. C'est-à-dire que leur mission divine, puisque c'était ça la chose, objectivement tournait en rond. Ça avait 20 ans qu'ils marchaient, et ils n'avaient pas remis dans le bon ordre ce qu'ils appellent l'horloge du destin. C'est-à-dire que tout était quand même toujours très calamiteux. Donc ça n'avait pas de fin et ça n'avait pas de sens.
C'est un peu des ratés, quoi. Ils savent qu'ils ratent tout, finalement. Parce que c'est 20 ans d'errance. C'est pas 20 ans avec des objectifs. C'est 20 ans d'errance.
Bah, eux, ils ont un objectif. mais ils sont...
Oui, enfin, il n'est pas rationnel.
Remettre en ordre l'horloge du destin, c'est un peu sauver l'humanité.
Oui, ça reste une errance. Si moi je vous dis j'ai envie de sauver l'humanité, vous allez me dire, c'est drôle, vous êtes un... Vous errez, hein.
Oui, mais le fait est que pendant 20 ans, ils se sont promenés comme ça à travers la France, qu'ils ont rencontré plein de gens, à qui ils ont tenu des propos. Par Pointoiret a dit une fois un maire d'un village que son père, qui était richissime, allait lui faire un gros chèque. Bon, tout ça était... Franchement, je pense pas que le maire l'ait cru. Mais bon, on a laissé passer, c'était un peu des doudingues.
Et c'est vrai
qu'ils n'ont rien fait de mal pendant 20 ans.
Est-ce qu'ils sont passés parfois pour des gens sympathiques?
Alors ça, évidemment, c'est difficile de répondre à cette question, puisque moi, je les ai pas croisés 20 ans avant le crime. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de plainte, par exemple. Il n'y a jamais eu de main courante dans une petite gendarmerie en disant « j'ai été pris à partie par deux marginaux oui. ». Hein. Ils avaient un comportement assez respectueux. On leur prêtait des locaux paroissiaux, beaucoup, pour la nuit. Donc, ils faisaient leur cérémonie purificatrice avec des bougies, comme vous l'avez très bien dit, et de l'eau aussi. Ils faisaient des aspersions, des choses comme ça. Mais ils n'ont jamais rien cassé, rien brûlé. Ils repartaient le lendemain, ils rendaient les clés, il n'y avait pas d'histoire. Ils ont été pris en autostop, ils se comportaient correctement.
Ah, il y a le problème aussi, hein. Les personnes désocialisées, comment débusquer celles qui peuvent passer au crime. On verra ça dans 4 minutes, après avoir écouté Cassidy, Souterrain.
Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Mission divine, Stéphane Durand soufflant. Ce fait divers est d'abord, à mon avis, avant tout, troublant. Il y a des faits divers qui sont effrayants, d'autres, celui-là l'est aussi, puisqu'il y a la mort d'un gosse. Hein. Mais il est d'abord troublant de ce qu'il renvoie de l'humanité, finalement. Donc, est un fou. Alors, si on prend en considération que son jugement a été aboli ou altéré, on y reviendra. On n'est pas face à un criminel classique que certaines personnes auraient envie de tuer à leur tour. Vous voyez cette haine que ça peut provoquer. Et cet engrenage, finalement, d'une enquête qui passe peut-être à côté de l'essentiel, elle commence, je crois, lors de la première, l'arrestation de Motoire et lors du premier PV d'audition chez les gendarmes, c'est ça?
Oui, il est en garde à vue, et il est très détendu d'ailleurs, parce que ça a été filmé, donc on a pu voir ça d'ailleurs lors du procès. Et donc le gendarme lui demande son nom, son prénom, sa date de naissance, donc il répond, il sait très bien comment il s'appelle et quand il est né. Et le gendarme lui demande donc profession, et Moitoiré répond en mission divine. Et là, il devrait, je sais pas, on devrait dire, bon, là, le gendarme aurait dit, écoutez, mon vieux.
Vous êtes gentil, mais arrêtez.
Voilà.
Vous payez ma tête.
Et il note sur le PV, en mission divine. Et ensuite, il lui demande de raconter cette mission divine. Et Moitoiré lui raconte, nous sommes sur les chemins avec Sa Majesté, etc., etc. Donc le gendarme lui dit, ah bon, et Sa Majesté, c'est qui? Et il y a une espèce de choses extrêmement troublantes. On délire avec le délirant. Alors que on aurait pu penser que dès ce moment-là, le gendarme serait allé voir sa hiérarchie en disant, écoutez, il y a un problème, c'est soit il se fiche de nous, soit il est vraiment dérangé.
Et il y a danger. Il peut y avoir danger. Et non, en fait. Et non. Ça passe comme ça.
Ça passe comme ça à ce moment-là, ouais.
Alors là où c'est troublant aussi, c'est la façon dont ça passe auprès des gens qu'ils ont rencontrés. Après tout, personne ne dit quoi que ce soit. Et cela dit, c'est important parce que il y a eu des drames comme ça, des erreurs judiciaires épouvantables. Je pense à Richard Roman, par exemple, qui n'avait rien de fou, hein, mais qui était un jeune homme qui ne vivait pas comme les villageois.
Un marginal.
Voilà, un marginal. Bon, on lui a collé le crime sur le dos. On a vu que c'était Didier Gentil, le vrai criminel. N'empêche qu'il a vécu un enfer d'erreurs judiciaires et il s'est suicidé. Donc ça peut être très dangereux, vous voyez. C'est-à-dire, les gens ne vivent pas comme nous, ils sont... Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est compliqué, ça aussi c'est troublant par rapport à la société.
Une des différences avec Richard Roman, évidemment les affaires n'ont rien à voir, mais Richard Roman, lui, c'était un marginal au sens qu'il vivait un peu en marge, mais d'une communauté. Il était sous le nez des braves gens qui, dès qu'il y a eu un drame, certains ont dit « bah c'est lui, c'est le marginal, on connaît ça ».
Parce qu'il est marginal.
C'est Brassens, c'est tout ce qu'on veut. Moitoiré et Ego, eux, ils étaient itinérants, c'est-à-dire qu'ils laissaient peu de traces dans la vie des gens, puisqu'ils croisaient furtivement des destins. Ils croisaient le destin d'une personne qui les prenait en stop, le destin d'un curé qui les prêtait les clés du local paroissial et qui les récupérait le lendemain. Mais ils étaient aussitôt partis, aussitôt oubliés. Et ce que disait votre personne interrogée dans le sujet, qui est le psychiatre, je crois, de Sainte-Anne, il disait en effet, si quelqu'un à l'époque était allé les signaler, peut-être qu'on aurait pu éventuellement les prendre en charge et éviter. Mais bon, ça c'est évidemment des si, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Et c'est évident que ni lui, ni Moitoiré, ni Noël Aégo ne seraient allés eux-mêmes se présenter à des services sociaux en disant, écoutez, je crois qu'on va pas très bien, là, ça fait 18 ans qu'on marche, on sait plus trop où on va. Ils avaient une peur bleue des services sociaux. D'où l'épisode tragique terrible en tout cas, de cet enfant qu'ils ont eu et qu'on leur a pris tout de suite, puisqu'ils pouvaient pas élever un enfant. C'est impossible. Quand la personne dit profession, ils disent exorciste, tout de suite, on comprend bien que ça va pas être possible.
Ouais, bien sûr.
Mais ils l'ont très mal vécu.
Alors il y a les psychiatres, on en revient aux psychiatres, on va terminer là-dessus parce que c'est important. Alors comment se joue la bataille, qui dit quoi et qui dit contraire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette bataille psychiatrique?
Bon, il y a eu trois collèges. La spécificité, c'est évidemment dans mon bouquin, dans Mission Divine, j'en parle beaucoup parce que d'abord moi ça m'intéresse énormément. Le premier collège déjà se éclate, il y en a deux qui disent... discernement altéré, et un troisième qui rend un rapport séparé en disant non, abolition du discernement. Donc, partant de là, le juge, très normalement, désigne un deuxième collège de trois autres praticiens très connus, dont l'un en tout cas est très connu, c'est le docteur Zaguri.
On l'a reçu ici plusieurs fois, qui est,
je pense...
Un peu la star des experts psychiatres.
Ouais, c'est un type dont on reconnaît la valeur. Et ces trois-là disent... abolition du discernement, Zaguri disait, c'est un schizophrène de musée. C'est-à-dire que si lui n'est pas schizophrène, cette maladie n'existe pas, en fait. Il a tous les symptômes, on a les antécédents, il n'y a pas de doute. Donc, à partir de là, le juge a quatre praticiens qui disent qu'il est aboli, et deux qui disent qu'il est altéré. Ça pourrait s'arrêter là.
Ouais.
Or, on va désigner un troisième collège, donc ça c'est un des ressorts de Mission Divine, le livre, c'est pourquoi aller chercher encore quatre autres médecins, alors qu'on est à quatre contre deux, enfin a priori ça s'arrête là, on dit... Et ce dernier collège dit, bah non, c'est altération seulement. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'à l'audience, ils ont été très remués par la défense. Et là, ils ont chancelé les experts du troisième collège, puisqu'à la question incroyable, mais est-ce que l'altération du discernement peut aller jusqu'à l'abolition, l'un d'eux a dit oui.
On n'en sort pas.
Alors, faudrait savoir. Le gars, il est payé pour savoir si c'est l'un ou l'autre. Mais puis finalement, on sait comment ça a fini, et ça a fini à la cour d'assises.
Toute dernière question, Stéphane Durand soufflant, il nous reste que quelques secondes. Comment va Stéphane Moitoiré aujourd'hui? Il va connaître les deux d'ailleurs.
Alors, Noëlla Ego est sortie, elle, des radars.
D'accord.
Elle est dans un endroit. Et lui, il est toujours, vous l'avez dit, il est toujours interné.
C'est ça.
Il n'a pas de contact avec l'extérieur. Il n'y a pas de raison pour que ça change rapidement.
Merci infiniment, Stéphane Durand soufflant. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire de la Mission Divine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves Derolat.